Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer une période qui a vraiment redéfini le monde. La Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918. Ce n'est pas juste une guerre de plus. C'est un véritable séisme qui a fait basculer l'Europe. Et la question au cœur de notre discussion sera « Pourquoi de nombreux historiens la qualifient-ils de « ur-catastrophe », la catastrophe originelle ?»
C'est exactement la bonne question. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer le contexte de 1914. En fait, ce conflit, c'est un cocktail explosif. Vous mélangez des industries surpuissantes, des nationalismes exacerbés, où chaque peuple se sent menacé, et bien sûr, des empires qui se disputent le monde. Le résultat, c'était une véritable poudrière. Il ne manquait qu'une étincelle.
Alors, justement, plongeons là-dedans. Qu'est-ce qui rend cette guerre si différente des précédentes? Je pense par exemple à la guerre de 1870.
Eh bien, le changement est... il est total. On passe à ce que les historiens appellent la guerre totale.
La guerre totale.
Oui, c'est-à-dire que ce ne sont plus seulement les armées qui se battent, ce sont des nations entières.
C'est toute la société qui est mobilisée, en fait.
Exactement. Toutes les ressources, l'économie, la science, la propagande pour mobiliser les esprits, tout est mis au service de la guerre.
Ce qui est frappant, c'est que personne ne l'avait anticipé, cette guerre totale. On a tous en tête cette image des soldats qui partent, la fleur au fusil, persuadés d'être entrés pour Noël.
C'est vrai, et cette illusion était partagée par tous les états-majors. En Allemagne, le fameux plan Schlieffen devait écraser la France en 6 semaines. Et côté français, le plan 17 misait tout sur une offensive foudroyante. Les deux reposaient sur la même idée, une guerre de mouvement rapide, décisive.
Mais rien de tout ça ne se produit. L'offensive allemande est stoppée net à la bataille de la Marne. Que se passe-t-il après cet échec?
Après la Marne, c'est ce qu'on a appelé la course à la mer. Chaque armée essaie de déborder l'autre, mais personne n'y arrive. Et à l'automne 1914, le front se stabilise, il se fige.
Sur près de 700 kilomètres?
Oui, de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse.
Et c'est là qu'on entre dans l'image la plus connue de cette guerre, les tranchées. Mais ce n'était le plan de personne, ça. C'est un échec stratégique, n'est-ce pas?
C'est un échec absolu. S'enterrer, c'est l'aveu que l'offensive a échoué. On passe alors d'une guerre de mouvement à une guerre d'usure. L'objectif n'est plus de vaincre, mais de saigner l'ennemi à blanc en espérant qu'il s'effondre le premier.
Analysons ce blocage. On a donc deux immenses armées face à face, incapables d'avancer. C'est un paradoxo. La technologie la plus moderne de l'époque qui crée une sorte de siège médiéval. Comment l'expliquer?
C'est une excellente image. En réalité, la technologie défensive avait pris une avance considérable sur la technologie offensive. La puissance de feu est devenue tellement énorme qu'elle rendait toute attaque presque suicidaire.
Vous pensez à l'artillerie lourde, j'imagine?
Principalement, oui. Elle est responsable de plus de 70% des pertes de toute la guerre. Elle transforme le champ de bataille en un paysage lunaire. Elle pulvérise tout.
Et puis il y a l'autre arme emblématique, la mitrailleuse.
Exactement. Une seule mitrailleuse bien placée pouvait faucher des centaines d'hommes en quelques minutes. Et le plus terrible, c'est que les états-majors ont mis des années à le comprendre. On a continué à envoyer des vagues d'infanterie se faire massacrer. C'était un décalage doctrinal. Certains historiens pour qualifier cette obstination parlent même de « boucherie consentie ».
Et à ça s'ajoutent des innovations encore plus terrifiantes.
Oui, comme les gaz de combat.
Utilisé pour la première fois par les Allemands à Ypres.
C'est ça, en 1915. Le chlore, puis le gaz moutarde. D'un point de vue militaire, ces armes ne sont pas décisives. Elles ne permettent pas de percer le front, mais leur effet psychologique est dévastateur. C'est une nouvelle forme de terreur. La peur d'une mort invisible, silencieuse.
C'est ce que vous appelez l'équilibre meurtrier. On invente pour tuer plus, pas pour gagner.
C'est la définition parfaite de la guerre des Ur.
Au-delà de cette technologie de mort, comment les hommes ont-ils survécu à ça? Quand on lit leurs lettres, ce qui frappe, c'est surtout la description de la vie quotidienne.
C'était une lutte de tous les instants. La vie dans les tranchées, c'est d'abord la boue, omniprésente. C'est le froid, l'humidité, la vermine, les rats, les poux. Et puis il y a le stress permanent, des bombardements, ce que les poilus appelaient le marmitage. Cette attente.
Et c'est là que sont nés les premiers cas de ce qu'on appelle aujourd'hui le stress post-traumatique.
Tout à fait. À l'époque, les médecins parlaient d'obusite ou de troubles nerveux. Ils étaient souvent désemparés. Ils voyaient ces soldats qui tremblaient, qui devenaient muets, paralysés, sans aucune blessure physique. C'était le corps qui disait non.
Et pourtant, au milieu de cet enfer, une forme de société s'est recréée. La camaraderie a joué un rôle essentiel.
Plus qu'essentiel, c'était la condition même de la survie. L'escouade, ce petit groupe de 10 ou 15 hommes, devient une sorte de famille. On partage tout, la nourriture, les lettres, la peur. C'est cette solidarité extrême qui permet de ne pas sombrer. C'est un paradoxe fascinant. Au cœur de la violence la plus industrielle, ce sont des liens humains très forts qui ont permis de tenir.
Cette réalité du front est une chose, mais la guerre était totale. Pendant ce temps, comment les sociétés à l'arrière, les civils, ont-elles tenu le choc?
Alors là, les situations étaient très différentes, notamment entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne a subi dès le début un blocus maritime très efficace de la part de la marine britannique. Et ce blocus a progressivement asphyxié son économie et sa population.
C'est ce qui a mené à des famines comme le fameux « hiver des rutabagas ».
Exactement, celui de 1916-1917. Le rutabaga, un légume pour le bétail, devient la base de l'alimentation. La malnutrition s'installe. Ce blocus a créé des tensions sociales immenses et a sapé le moral de la population allemande, bien plus que n'importe quelle défaite militaire.
Et en France, la situation était-elle la même?
Non, pas du tout. La France, même si une partie de son territoire était occupée, avait accès aux marchés mondiaux. L'approvisionnement était difficile, bien sûr, mais sans commune mesure avec la situation allemande. Et surtout, la société française était soudée par un sentiment très puissant, celui de défendre un territoire envahi.
C'est la fameuse union sacrée.
C'est ça, cette idée de mettre les divisions politiques de côté pour faire face à l'agresseur. La propagande a bien sûr joué un rôle immense, tout comme le travail des femmes, les munitionnettes, qui ont fait tourner les usines.
On arrive à l'année 1917. Après des années d'usure, qu'est-ce qui fait finalement basculer cet équilibre?
Deux événements mondiaux changent la donne. Le premier, c'est la révolution russe.
La Russie sort de la guerre.
Oui, elle est épuisée. C'est une aubaine pour l'Allemagne, qui peut transférer des centaines de milliers de soldats du front Est vers le front Ouest. On pense alors que la victoire allemande est proche.
Mais c'est sans compter sur le deuxième événement.
Le deuxième événement, décisif, c'est l'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917. Au début, leur impact militaire est faible, mais leur poids est ailleurs. C'est une puissance industrielle colossale, avec des ressources humaines quasi illimitées.
Pour les Alliés, c'est une promesse de renfort inépuisable.
Exactement. Et pour les Allemands, c'est un coup terrible au moral. Ils savent qu'ils doivent gagner vite avant que la machine américaine ne se mette vraiment en marche. C'est ce qui explique leurs grandes offensives du printemps 1918, celle de la dernière chance.
Ces offensives échouent. L'armistice est signé le 11 novembre 1918. La guerre est finie. Mais on a l'impression que les vrais problèmes ne font que commencer.
C'est le point fondamental pour comprendre tout le reste du XXe siècle. L'instabilité vient du fait que les mémoires du conflit sont radicalement opposées. En France, c'est une victoire, mais une victoire tragique. Le pays a perdu 1,4 million d'hommes. C'est un pays traumatisé, obsédé par une seule chose, la sécurité. Il ne faut plus jamais que ça recommence.
La der des der.
Voilà. En Allemagne, la perception est aux antipodes. Il n'y a pas ce sentiment de victoire charmant acquise, mais celui d'une défaite incompréhensible.
Incompréhensible. Pourquoi?
Parce que le territoire allemand n'a pas été envahi. Jusqu'au bout, la propagande a promis la victoire. Et soudain, on leur annonce que l'armée a capitulé. Pour beaucoup, c'est un choc.
C'est le terreau parfait pour la naissance de ce mythe dévastateur. La légende du coup de poignard dans le dos.
Tout à fait. La Dolchstoßlegende. C'est un mythe propagé par les milieux nationalistes. L'idée est simple. L'armée allemande, invaincue sur le champ de bataille, aurait été trahie par l'arrière, par les civils, les politiciens.
Une manière de refuser la réalité de la défaite militaire.
Complètement. Et le traité de Versailles, signé en 1919, ne va faire qu'amplifier ce sentiment.
Il est perçu comme un diktat.
Oui, une paix imposée, humiliante. Surtout son article 231, qui déclare l'Allemagne seule responsable de la guerre. C'est vécu comme une injustice monstrueuse. Selon de nombreux travaux d'historiens, ce mélange de défaites non acceptées, de mythes et d'humiliation a empoisonné dès sa naissance la jeune République de Weimar.
En résumé, si on revient à notre question de départ, cette guerre est une rupture à tous les niveaux. Militaire, avec la violence industrielle. Humain, avec des traumatismes sans précédent. Et politique, avec la chute des empires et une Europe totalement instable.
C'est cela. Et c'est la divergence des mémoires qui a préparé le terrain pour la suite. D'un côté, une France victorieuse mais intransigeante. De l'autre, une Allemagne vaincue, qui se sent humiliée et qui rêve de revanche. La catastrophe fondatrice est là. La Première Guerre mondiale n'a pas résolu les problèmes de 1914. Elle les a aggravés et en a créé de nouveaux.
Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, pour poursuivre la réflexion, après avoir traversé une telle expérience de violence de masse, comment les sociétés européennes ont-elles pu ou non reconstruire une culture de la paix et une valeur pour la vie humaine ?